Et dans Matthieu 26, on est rendu au verset 17. Et aujourd'hui, nous allons considérer ensemble les versets 17 à 30. Le repas pascal, ou de certains vont dire la dernière Pâque, parce qu'on sait que la Pâque était une des fêtes annuelles qui était célébrée à Jérusalem, tout le monde se rassemblait. 26-17, ouais. Comme j'ai l'habitude de le faire, on va juste lire des versets pour s'introduire, puis on va couvrir tout le matériel à travers le message. Mais juste ici, pour s'introduire, le verset 17 à 19, là, littéralement pour mettre la table pour le message, parce qu'il demande au gars d'aller mettre la table. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps approche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Juste prendre le temps ici de vous expliquer quelque chose. Des fois, il faut être en garde contre nous-mêmes quand on lit la Bible. Des fois, on peut l'approcher avec, bon, nous, le Nouveau Testament, Jésus notre Pâque, puis on a toute l'histoire. Faut pas oublier qu'eux autres, ils célébraient cette fête dans la perspective de l'Ancien Testament. Nous, on la voit comme des croyants du Nouveau Testament, tout est accompli, mais eux, là, c'est encore là, tout l'arrière-plan de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'était une des fêtes nationales qui rappelait à Israël comment Dieu avait sauvé contre le jugement, okay, cet agneau qui devait être tué, le sang sur les linteaux de la porte, pour les sauver du jugement des 10 plaies. Puis, donc, la provision de Dieu, de cet agneau, puis, OK? Puis aussi, de la délivrance de Dieu qui s'en est suivi, hein? Les 10 plaies les ont pas atteints. Il les a sortis à bras élevés, à bras étendus, avec la séparation de la mer Rouge et tout ça. Il a vaincu tous ses ennemis. Juste quand je vous dis ça, évidemment, on voit que tout ça est une préfiguration de l'œuvre rédemptrice de Christ, là. C'est évident, là. Le sang sur, hein, le sang de l'agneau sans tache, la délivrance surnaturelle de Dieu, puis tu sais à cause du sang versé, on n'a pas le jugement, puis la délivrance surnaturelle. Comme, ok, bon, évidemment, tout ça nous pointe à Christ, mais faut comprendre que ces gens-là n'avaient pas toute cette compréhension-là, puis ça va nous aider pour le message de cet après-midi, pour comprendre un peu eux autres comment ils vivaient les choses, comment ils comprenaient les choses. Donc, oui, l'accomplissement est parfait, complet en Jésus. Ça, c'est la réalité objective, on peut le voir maintenant, ces faits-là historiques sont accomplis en Christ. Donc, la préfiguration maintenant, ce qui était annoncé, est maintenant accompli. Nous, on voit ça maintenant, mais eux, ils n'étaient pas encore rendus là. Fait qu'ils étaient encore dans certaines choses qu'ils connaissaient, mais ils s'en avaient beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas exactement tout ce qui se passait. Ils étaient habitués au repas de la Pâque, ils ont demandé à Jésus, OK, c'était quelque chose qu'ils faisaient, c'était des Juifs, ils étaient tout habitués de faire ça. Mais il y avait pas mal plus que le client en demande dans ce qu'il était en train de vivre là. C'est pour ça que je voulais prendre le temps d'expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'aussi, le même principe peut s'appliquer par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, c'est la révélation de qui Dieu est, de son plan rédempteur. Ça, c'est objectif, ça ne change pas, c'est les faits, c'est là. Mais nous, on expérimente de façon subjective, par la foi. Tu sais, s'approprier ces choses-là, c'est chacun le juste vivra par la foi. Oui, les faits sont là, tout le monde, on a le même évangile, la même parole de Dieu. Mais on se l'approprie par la subjectivité de notre foi. Il faut que nous, on se confie dans ces choses. Il faut que nous, on cherche Dieu à travers ces choses-là. Donc, il y a les faits, la réalité de l'Évangile, mais l'appropriation, elle est par la foi. Et c'est précisément ce qui arrive ici dans le texte. J'aimerais souligner, vous allez voir à travers là, ce qu'on va voir, mais j'aimerais souligner en partant que Jésus est majestueusement et souverainement au contrôle de toute la situation. Amen. C'est vraiment là, wow! Il dirige de main tout ce qui arrive. Et on doit voir là un parallèle avec nos vies personnelles, ou comme les disciples dans le texte ici qui étaient, on l'a vu la semaine passée, hein, ils étaient pas mal dépassés par les événements. Là. Ça commençait, on dit, hein, l'eau a commencé à être pas mal chaude au point de bouillir. Là. Ça commençait à vraiment être un peu moins drôle pour eux autres. Toute la pression, littéralement, il y avait des menaces de meurtre. Écoute, on va-tu tous mourir? Le Sanhédrin qui conspire le meurtre contre notre maître, puis nous autres, on va... T'sais, c'était pas très agréable là, comme ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais il y a une sécurité, une confiance, une espérance qui est fondée dans le fait que Dieu est au contrôle. Jésus n'était pas surpris, lui. Lui avait tout en son contrôle, même qu'il dirigeait les choses. C'est lui qui est en train d'orchestrer tout ce qui était en train d'arriver, puis c'est lui qui est en train d'orchestrer en ce moment tout ce qui est en train de nous arriver. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça ne l'a pas changé. Donc, ce que je veux qu'on voit simplement après-midi avec notre texte, c'est trois directions que Jésus donne au repas pascal. Parce que là, ici, on est dans le repas pascal. Comme j'ai dit, certains vont dire la dernière Pâque, le repas de Pâque. Pascal, Pâque, vous comprenez le lien. Là. Donc, on a lu dans les versets 17 et 19 qu'il dirige le lieu du repas pascal. La première chose qu'il dirige, c'est le lieu. Et je veux prendre que c'est significatif. Il est clair ici que Jésus ne subit pas les événements, mais il les dirige et les orchestre pour qu'ils soient à sa façon de, et de manière délibérée. C'est-à-dire que Jésus a des instructions précises. On apprend dans un autre évangile qu'il dit « Vous allez reconnaître un homme qui a une cruche. Vous allez savoir que c'est lui. » Les hommes à l'époque ne portaient pas... Je ne sais pas si c'est encore de même en Afrique, mais ce que je savais aussi, c'est des femmes qui portent des cruches. Tu sais, des fois, ils ont ça sur la tête ou tout ça. Les hommes font... Il y a une photo que j'ai vue. Je pense que c'était-tu avec M. Logan? Ils avaient montré ça. Tu vois, des femmes, ils ont toutes des affaires dans les bras et tout. Puis t'as deux messieurs qui genre, ils sont dans la rue. Ils ont comme rien à faire. Les madames sont toutes occupées à travailler comme des forcenés. Puis les deux gars sont là, ils se la coulent douce, ils jasent. Puis ça, il dit, ça, c'est une image qui vaut mille mots pour la culture africaine, en tout cas. Mais c'était comme ça aussi à l'époque. Fait que voir un homme qui avait, c'était pas normal. Pour ça qu'ils l'ont reconnu. Tu sais, c'est pas vrai, il y en a 25 qui ont des cruches. Non, c'était quelque chose. Et c'était Jésus qui dirigeait vers justement ce qui avait été de toute évidence préparé auparavant. Jésus avait fait des arrangements de façon secrète. Avec cet homme-là, on en déduit pourquoi? Parce que, bon, Jésus était capable de toutes choses, mais il savait que là, dans les circonstances, il ne fallait pas que Judas soit au courant pour pas qu'il soit alerté de façon prématurée et qu'il aille dire aux autorités religieuses, Jésus, c'est là que... Puis là, comprenez-vous? Fait que Jésus a tout orchestré ça, c'était secret, puis il dit, vous allez leur connaître de... OK? Voyez-vous comment, comme je vous dis, vraiment, Jésus avait tout ça. Pourquoi? Parce que les choses fallait qu'elles arrivent en son temps. Le temps de Jésus-Christ. Il devait arriver exactement au moment choisi par lui de façon souveraine. Et donc, Jésus-Christ, ici, quand on voit qu'il dirige le lieu du repas pascal, ça nous montre que Jésus est au contrôle, non seulement du repas pascal, mais on en déduit de tout ça, de même ça, la trahison, l'arrestation, et même la crucifixion dans les moindres détails. Il était complètement au contrôle. Et s'il est tellement le grand Dieu tout-puissant qui a autorité sur toutes choses, ça veut dire que oui, il est capable de même contrôler les plus petites. Parce que quand on est grand comme ça, on est capable de contrôler ce qui est grand, ce qui est macro, mais aussi ce qui est micro. Et c'est intéressant, au verset 18, quand Jésus ici donne un message là, à cet homme qui était propriétaire du lieu où il devait avoir le repas, il dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Je lui ai dit « Mon temps est proche, voyez-vous comment il y a de ça, mais aussi, je veux attirer notre attention sur « Je ferai la Pâque avec mes disciples. » Jésus a décrété encore ici dans, comment les choses allaient se passer. Il dit « Je vais pas avoir la Pâque comme ça, n'importe comment, non, je vais avoir la Pâque avec mes disciples. » Et savez-vous qu'encore aujourd'hui, Dieu décrète et nous appelle à la communion de sa présence et de ses souffrances. Parce que ce repas-là, pascal, c'était le dernier repas. On a les grands détails dans Jean 13, 14, 15, 16 et 17, sa prière. C'est un moment unique en sa présence. Jésus les appelait à la communion de sa présence, mais aussi de ses souffrances, parce qu'il a ouvert son cœur, puis tout ça préparait pour, justement, la trahison, l'arrestation, crucifixion, puis on pourrait dire la dispersion, parce que quand que Jésus est arrêté, ils sont tous partis. D'où l'importance de simplement lui faire confiance. C'est lui qui nous appelle à ce que lui veut. On aime bien sa douce présence, mais savez-vous quoi? Il nous appelle aussi à sa souffrance et sa présence est tout aussi, autant là. D'où l'importance de simplement et humblement faire comme il nous ordonne, verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Ils n'ont pas essayé de dire, mais là, comment on va le trouver? Ça va marcher? Non. C'est tout arrivé comme Jésus avait dit. Ils ont fait confiance. Tout s'est bien passé. Il n'y avait pas à se casser la tête. Jésus avait déjà tout dirigé à l'avance. Et je dirais que ça résume, je fais une application ici par rapport à la philosophie ou la base biblique, là. Par rapport à la façon qu'on adore le Seigneur ici dans l'Église en ce moment. On veut le faire en esprit, en vérité, en liberté, selon le Seigneur, selon sa parole. Et c'est pour ça qu'il est impératif et non négociable que ça reste ainsi. J'ai donné à Théovox l'exemple avec Pharaon, c'était non négociable. Il dit, ah ben là, fais ça comme ça. Puis que, non, ça, on va le faire à la façon de l'Éternel. On va adorer l'Éternel seul, à sa façon seule. Il y a des choses comme ça qui vont rester toujours, qui doivent être non négociables. Pourquoi? Parce que ici, Jésus dirige le lieu du repas pascal de sa propre autorité. Bien, de la même façon, savez-vous quoi? Dieu a donné, dans l'époque néo-testamentaire qu'on vit, le lieu d'adoration pour son peuple dans l'église locale. Et c'est Dieu qui a désigné ça. C'est lui qui... Il y a un lien, là. Il avait dit, vous allez faire la Pâque là, mais Dieu, dans sa parole, nous dit, l'adoration de mon peuple, c'est dans l'église locale. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de soutien, c'est un lieu de communion, c'est un lieu d'entraide, un lieu d'écoute, un lieu de partage. Et il n'y a aucune alternative. Et puis, j'utilisais le mot perversion virtuelle qui peut n'y faire. Ça m'amène au deuxième point. Non seulement Jésus a dirigé le lieu du repas pascal, et là, vous allez voir, c'est toutes des L, mes points. Il a aussi dirigé le litige du repas pascal. Lisons les versets 20 à 25, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il a dirigé le litige du repas pascal. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Jésus dirige le litige. Pourquoi? Parce que c'est lui, là, sont assis, c'est lui qui amène le sujet de conversation. Cet éléphant dans la pièce, qui, dans le fond, était ignoré pour tous, même si Jésus l'avait annoncé, parce que je vous répète qu'au début du chapitre, au verset 2, il dit, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Il sera livré. Il y a eu l'instrumentalité de Judas là-dedans. C'est clair que les disciples ici ne comprenaient pas tout ce qui arrivait. Mais Jésus amène le point le plus, je dirais, troublant. Comme ça, bang, direct. C'est lui qui a amené le sujet de conversation. Il a dirigé le litige. Et écoutez bien, mes amis, il y a quelque chose que je veux qu'on tire leçon là-dessus. On s'en a, tout le monde était malade. Tout le monde dit, c'est-tu moi? Quoi, te livrer? Voyez-vous l'offense, là? Le Fils de Dieu, la tension est palpable. Il y a un coupable ici qui va me livrer aux autorités, là. Imaginez-vous le choc de cette déclaration, là. Puis c'est lui qui l'a amené, là. Il y a vraiment une tension, une pression qu'il devait exercer de par cette déclaration de Jésus. Et savez-vous que Dieu révèle en son temps et à sa façon ce qui nous rend mal à l'aise? Pourquoi ça nous rend mal à l'aise? Parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas, puis on n'accepte pas. Dieu fait ça encore. C'est quoi? Ils étaient tous, ils connaissaient pas trop de quoi qu'ils parlaient, ils comprenaient pas. Puis c'était dur à accepter. Quoi? Me livrer? C'est-tu moi? Lorsque Dieu révèle les Judas de nos cœurs ou de nos relations, c'est pas beau. C'est pas beau, mais c'est nécessaire et c'est salutaire. Ça fait partie de comment son plan se développe. Car tant qu'on n'a pas fait face à nos problèmes, à nos blessures, à ce qui nuit à ce que Dieu veut faire dans notre vie, tant qu'on n'est pas confronté à leur laideur, à leur offense, à leur destruction, on ne va pas aller à celui qui est la solution, à celui qui guérit, à celui qui en est la victoire, au baume qui guérit les plaies. Voyez-vous? C'est important, c'est le bout de plate du texte, on peut dire, là. Ça nous met mal à l'aise. Puis dans nos vies aussi, ça nous met mal à l'aise, on n'aime pas ça. Mais c'est indispensable. Parce que comment on peut, c'est pour ça aussi que la loi de Dieu nous a été donnée, comment on peut aller au sauveur si on ne voit pas qu'on a offensé Dieu, si on ne voit pas qu'il y a un problème? Obligatoire. Et là, il y a quelque chose d'un peu invraisemblable dans ce qu'on a lu. Et il y a une explication, oui, une possibilité, mais quand Judas, il le demande au verset 25, est-ce que c'est moi? Jésus a dit, tu l'as dit. Moi, je dis ça des fois, bien, qu'est-ce que les autres ont fait? Bon, premièrement, c'était peut-être une conversation privée. Peut-être qu'ils se parlaient juste et que les autres n'entendaient pas. C'est une possibilité. Mais je veux juste faire remarquer quelque chose. Même si les autres ont pu entendre et tout ça, regardez la situation présente, là, ce qu'on vit depuis 2 ans, mais qui accentue. Il y a un phénomène qui accentue, que je veux mettre le doigt dessus, vous allez comprendre comment ça s'applique à notre texte ici. Les ténèbres sont de plus en plus répandues, sont opaques, et les ténèbres rencontrent la lumière, parce que il y a de la vérité, pareil, puis Christ reste la vérité, puis OK. Mais quand ça arrive, c'est pas automatique que tout le monde comprend et que tout le monde allume à cause de la puissance de la tromperie. Tu sais, parce que sinon, là, les gens disent, on se fait tout avoir, puis tout ça. Mais non, il y a encore tellement de monde qui croit à toutes sortes de tromperies là-dedans. Je crois que ça, il y a un principe là-dedans, comme ici, dans le texte, les gens ne comprenaient pas tout. Tu sais, ça prend l'intervention de Dieu pour qu'on puisse comprendre, voir ce qui ne marche pas. Pour que quelque chose puisse se produire. Autant dans notre texte qu'en ce moment, le voile de la méchanceté, le voile du mensonge se lève. Je disais ça tantôt avec quelqu'un. Il dit, non, les dirigeants, c'est comme, je pense avec toi alors. Et les dirigeants, c'est comme plus, c'est plus caché qu'ils sont méchants. Puis tu sais, on a vu en Ottawa, tu veux dire, comment notre premier ministre a agi? C'est outrageux, là, tu sais, voyons, ils décident de faire ça comme ça, puis les autres qui votent pour, tu sais, moi, je dis, oh, ça se peut qu'ils se mentent pas, c'est trop... Tu sais, le voile qu'avant, il y avait une certaine notoriété, puis là, il y a comme plus ça, là, ah ouais, traitez-les, puis tout le monde voit bien, tu sais, je veux dire, ces gens-là, c'était pas comme Black Lives Matter, puis je prends pas les... Ça me déconcentre trop, je prends pas les commentaires quand je prêche, parce que sinon, je perds le fil, puis... Mais en tout cas, vous le direz tantôt, peut-être après le message, OK? Gardez-le, prenez-le en note, parce que sinon, ça me dérive complètement, là, mais je pense que j'ai vu 2 mains, là, c'est pour vous donner une illustration actuelle, peut-être que ça vous a fait penser, mais bon, c'est ça. Tout ça pour dire, écoutez bien, la lumière et les ténèbres se rencontrent, mais c'est pas automatique qu'on va voir, ça prend l'intervention de Dieu pour qu'on le voit. En ce moment, le voile de la méchanceté, du mensonge... se lève, on le voit ces choses, mais comme les disciples, comme la majorité de la population et malheureusement comme la majorité des églises, tout le monde reste dans la tromperie, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas la lumière de la vie les éclairer. Là où c'est le plus critique, c'est avec nous, le peuple de Dieu, qui, pour des passages, Romains 13, 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, et aussi pour d'autres sujets, là, on pourrait parler de tout le phénomène de la psychologie, puis on met ça à la sauce chrétienne, puis toutes sortes de domaines de même où est-ce qu'il y a de la tromperie. Écoutez, c'est quoi le problème? C'est que les chrétiens ne pensent plus selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je me demande si on prie, puis si on cherche Dieu pour dire « Dieu, Je veux prier comme Paul a prié pour les Éphésiens, pour que tu illumines les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par vertu de ta force. Amen. Qui est-ce qui demande ça? C'est pour ça que je crois que oser 4-6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas qu'il manque, hey, c'est pas assez de versets. Non, on connaît pas Dieu. Dieu, révèle-toi à moi tel que tu es. T'es le grand Dieu, digne de toute confiance. Je veux te connaître tel que tu es, puis te faire confiance à ce que tu révèles toi. Hey, pas mon imagination, pas ce que les hommes disent, mais ce que toi, tu dis sur toi-même. Et donc, non seulement il n'y a pas de façon positive, cette prière, cette recherche du peuple de Dieu pour connaître Dieu tel qu'il est, puis ainsi se fier, se confier en ce que lui, il est. Mais aussi, d'une façon négative, le peuple de Dieu est influencé par la pensée de ceux qui sont décrits ici dans la parole de Dieu comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Puis un autre passage ici, mais n'imitez pas la voix des nations. Ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Tout ça parce qu'on l'a vu ce matin, hein? On est conforme au siècle présent et peu transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi il en est ainsi, tout ce que je viens de décrire? Simplement, si on met ça très simple, le peuple de Dieu a écouté toutes sortes de voix dans le monde, de leur cœur, mais très peu celle du berger, du bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et cette voix bénie de notre bon berger a été étouffée par toutes sortes de bruits, de tumultes. N'est-ce pas intéressant que ça dit dans l'option 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il y a du tumulte en ce moment, toutes sortes de bruits, mais pas la voix de l'Éternel. Puis je crois que, un peu comme dans l'option 94, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. C'est de ça qu'on a besoin, des consolations de l'Éternel. C'est sa voix qui va nous consoler, qui va nous ramener à l'essentiel, à lui-même, à ceci. Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une autre montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Et voici ce que je veux que tu dises aux villes de Juda. Voici ton Dieu. That's it. Il n'y a pas besoin de Dieu, voici ton Dieu. Et c'est ce que le peuple de Dieu a besoin de simplement se rappeler, voici ton Dieu. C'est-à-dire, si Dieu est pour nous, qui va être contre nous? Si notre vision de Dieu est grande de même, l'homme va être gros de même. Puis on n'aura pas d'autre choix que d'honorer. Je pense que Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, pourquoi on dit, hey, wow, eux autres, je pense qu'il y avait un grand Dieu qui voyait devant eux autres. Puis ils ne pouvaient pas même devant. Nebuchadnezzar, ils ne voyaient pas plus gros que sa statue, puis même pas mal plus petit, j'imagine. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vision proportionnée de Dieu pour qui il est. Le grand Dieu éternel et redoutable. Ça m'amène à la troisième direction que Jésus a donnée au repas pascal. Non seulement il a déterminé le lieu, il a déterminé le litige, mais aussi il a dirigé l'alliance du repas pascal. Versets 26 à 29. De Matthieu 26. Il a dirigé l'alliance. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et en donna aux disciples en disant... Puis là, quand je disais tantôt, eux autres, ils réfèrent à l'Ancien Testament, ils faisaient tout le temps ça, là, le pain, là, c'était la fête des pains sans levain. Ils étaient habitués à ça. Mais là, Jésus amène quelque chose de vraiment nouveau là-dedans. Là. Ben, de vraiment, c'était préfiguré, mais là, pour eux, de l'entendre parler comme ça, « Prenez et mangez ceci, mon corps! » Oh! Et ensuite, Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur en donna et dit « Buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui a été répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » OK, parlant d'alliance, je vais juste vous lire ce que le prophète Jérémie nous dit sur la nouvelle alliance, Jérémie 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est à ça que Jésus réfère quand il dit le sang de l'Alliance. Autrement dit, ici, Jésus réfère les plus grandes et les plus précieuses promesses de la parole, comme ça dit dans 1 Pierre. Hey, c'est un passage extraordinaire d'écriture qu'on vient de lire là, dans Jérémie 31. Donc, il prend ces précieuses promesses de sa parole, puis les relie aux événements qu'ils sont en train de vivre. Les événements déstabilisants et troublants. Tu te rappelles le verset que je t'ai partagé, je pense, la semaine passée, l'autre d'avant? Dans Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 13, ça dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont des clous plantés, elles sont données par un seul maître. » Vous savez, dans la vie, on a des hauts et des bas, puis c'est pas toujours facile. Des fois, on est déstabilisé comme les disciples étaient là. Et la Bible ici compare la parole d'abord à un aiguillon. Vous savez, un aiguillon, c'est pour qu'un bœuf qui... Tu envoies-tu un bœuf, c'est mollo. Tu sais, vous dire, il est dans le champ, pas trop pressé. Pour le faire bouger, on pique sa fesse avec un aiguillon. Pouf, pouf, là, tu sais, on dit un aiguillon en bœuf. Shamgar, je pense, qui s'est battu contre les Philistins ou je sais pas trop qui, puis... Bon, un aiguillon en bœuf, c'est un piquant, là, puis... OK? Fait que des fois, la parole de Dieu, elle dit, « Hey, sors de ta zone de confort, là. Arrête de marcher par tes raisonnements, puis tout ça, puis fais-moi confiance, marche par la foi. » Fait qu'il y a ce rôle-là de la parole. Mais ça dit que, rassemblant nos requêtes, tu prends plein de rémas de la parole, comme on disait tantôt, plein de versets, puis tu les rassembles ensemble en un recueil, ça devient des pieux, des clous, des vérités stabilisantes qui vont t'ancrer dans la parole. T'es tout déstabilisé, ok, t'as besoin de sortir, à un moment donné, t'as besoin, ok, là, j'ai besoin de la parole, rassemblée ensemble comme ça, en un recueil, ça va nous stabiliser. Et c'est ça que Jésus fait ici. Il était troublé, il était déstabilisé, Jésus leur amène la stabilité de la parole. Quelle merveilleuse façon que le Seigneur prend pour les éloigner du drame temporaire de la trahison qui a été annoncée, le litige que lui-même a amené, et de ramener leur regard, leur attention sur la grâce éternelle de l'alliance que lui-même allait sceller de son propre sang. N'est-ce pas, voyez-vous comment il est complètement au contrôle, là, je veux dire, tout est orchestré, dirigé, il prend soin de ses brebis. Il a pris une célébration ancienne, la Pâque, je l'ai dit, là, tu sais, c'était ça. D'ailleurs, les Juifs ont encore ça, là, puis ils l'appellent, c'est-tu ça qu'ils appellent le Seder? Des fois, je me mêle dans les noms, là, des différentes célébrations juives, là, mais tu sais, avec les pains et puis tout ça, là. Donc, il a pris une ancienne célébration, malheureusement, qu'on appelle la Pâque juive, de réussir à avoir une Pâque. C'est un empereur romain qui a dit, on va faire une Pâque chrétienne puis une Pâque juive. Ça n'a pas rapport, là. C'est Christ, notre Pâque, puis tu sais, je veux dire... C'est comme vouloir nous déraciner du fondement, parce qu'une une semaine après l'autre, d'habitude. Ah, les Romains. Les empereurs romains. Parce que les autres, c'est des Italiens, là. Non, il n'y a pas de problème, mon ami, là. L'Italie, c'est un beau pays, là. Donc, pour revenir, il prend une célébration ancienne, celle de la Pâque, qu'il connaissait, puis il donne une nouvelle signification. C'est mon corps, c'est mon sang. Il le ramène à lui. Il jette la lumière de son œuvre rédemptrice, actuelle, immédiate, là, qu'il a dit 2 jours, puis il s'approchait de plus en plus. sur une célébration qui était habituée, mais qui là prenait tout son sens. Voyez-vous, il y a quelque chose de précieux là-dedans. Il pouvait tout déstabiliser, puis tout, mais voyez-vous comment il prend la parole de même? Il prend l'alliance, il prend tout le contexte de l'Égypte, puis là, il ramène ça, puis c'est un pieu pour leur vie. Il les a stabilisés dans leur instabilité. Oh, on peut faire un parallèle pour nous. Avec le fait de connaître la parole de Dieu, ou pour le mettre dans des mots que j'ai utilisés ce matin, les faits de l'Évangile. Christ est mort, enseveli, ressuscité. L'Évangile aux perdus, c'est Christ est mort pour nous. L'Évangile aux saints, c'est nous sommes morts avec Christ. C'est le même Évangile, c'est la même œuvre. Mais le vivre dans l'actualité de notre union avec Christ, c'est ça qui est le plus libérateur. Le problème de la majorité des chrétiens et des églises, c'est qu'ils négligent tout le pas de l'Évangile au sein. Parce que l'Évangile au perdu, c'est la porte d'entrée. Christ est mort pour nous. Puis gloire à Dieu, il a tout accompli. Mais l'Évangile au sein, c'est qu'on est mort avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains 6, toute l'idée que Dieu s'est occupé du péché, on est mort au péché et vivant pour Dieu. Et ça, c'est une vérité non seulement stabilisante, mais tellement salutaire pour nos vies. C'est celle qui me fait qu'on arrête d'essayer de pédaler, puis essayer plus fort, puis trouver notre identité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait pas, ce qu'on devrait faire, ce qu'on aurait dû faire, puis trouver tout ça en Jésus-Christ, qui est notre identité. On est mort à ce passé-là, on est mort à ce péché-là, et maintenant on est vivant pour Dieu. Ce qui nous définit, c'est plus nous-mêmes, c'est ce que Christ a fait de nous. C'est toute la différence au monde. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que, puis là, écoutez bien ce que je vais vous dire, beaucoup de chrétiens restent seulement avec l'aspect de la vision céleste de leur salut. Voici ce que je veux dire. Ils négligent la praticalité, la vision terrestre, terre à terre de l'Évangile. C'est-à-dire, ils vivent un Évangile qui est désincarné de la réalité quotidienne, qui n'affecte pas leur vie pratique. Comme si l'Évangile, bon, OK, j'ai mon ticket pour le ciel, puis ça, c'est réglé. Mais comment ça affecte ma vie maintenant? C'est ça que je veux dire, désincarné, c'est comme, c'est des belles vérités, c'est merveilleux, mais comment ça change ma vie maintenant? C'est lorsque je vois que je suis mort au péché, puis vivant pour Dieu, que ça va changer ma vie maintenant. Je suis reconnaissant que Dieu a dit avec mon péché, puis il n'y a plus de condamnation, plus de séparation. Mais dans ma vie, ce qui change, c'est de m'approprier cet Évangile pour ce que ça veut dire pour moi maintenant. Je suis mort avec Christ. Et je suis vivant en lui maintenant.
Amen.
Et je crois que tout le rapport à l'église locale, on a parlé de l'église locale ce matin, à la relation fraternelle que l'on vit depuis 2 ans, a fortement démontré la grave carence que la majorité des chrétiens et des églises, qui malheureusement sont à l'aise, sont OK, avec l'idée de vivre une chrétienté dépouillée, puis là je vais prendre un mot qu'on a appris en 2020-2021, dépouillée du présentiel, désincarnée de la réalité de l'appartenance, du dévouement à un corps local de croyants. C'est grave au niveau théologique, parce que ça provient d'une ecclésiologie pauvre, pour être doux, et c'est fondé... Ce n'est pas fondé, pardon, solidement sur une christologie riche. Christ est le chef de l'Église. Christ est notre identité. Christ est notre Seigneur. Et tout ça aussi avec une sanctification, une vision de la sanctification qui est décousue. Je vous l'ai déjà souvent dit, un pasteur d'expérience qui m'a dit un jour, ça a toujours collé avec moi, puis toutes les fois que je le vérifie, c'est vrai, tout découle de notre théologie. Tout découle de notre théologie. Et ce que je veux souligner théologiquement ici par rapport à notre texte, c'est une grande vérité qui est d'un grand réconfort pour moi. Puis j'ai dit, Jésus est au contrôle dans tout ça, là. Bien, pour moi, là, en 2020-2021, là, la souveraineté absolue de Dieu, surtout, oh, mon ami, je suis allé me réfugier souvent là-dedans. Mais là, tu comprends pas, puis ça n'a pas de bon sens, puis souvent, c'est le Seigneur, je suis pas content, là. Comment ça, c'est de même? Puis je l'acceptais pas. Puis Dieu toujours simplement demandé, « Ouais, mais je suis Dieu, là. Puis je fais absolument ce que je veux. Quand je veux, je demande pas permission à personne. » Ah. Mais quand on l'accepte, c'est libérateur, parce que OK, ça veut dire, c'est-tu quoi? Même au-delà de ça, c'est pas juste que je l'accepte. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bon avec ça. Ça veut dire que tu es au contrôle pour faire ce que juste toi es capable de faire, ton œuvre rédemptrice, de changer le mal en bien et tout ça. Donc, c'est pour ça que je veux terminer avec comment eux autres aussi ont terminé. Dans le verset 30, on apprend simplement, ça nous dit à la fin du repas, là, après avoir chanté les cantiques et se rendre à la montagne des Oliviers. Chanter les cantiques. Selon la tradition, c'était probablement les psaumes 113 à 118. Donc, j'aimerais juste qu'on conclue ensemble, en s'en allant ensemble dans le psaume 118 qu'on va lire. Comme conclusion, c'est vraiment un psaume qui exalte la souveraineté de Dieu, vous allez voir. Un très beau psaume, 29 versets. Puis après, je vais juste faire quelques petits commentaires, puis ça va être terminé. Donc, nous, on ne va pas le chanter, là, mais on va le lire ensemble. Ça va donner un peu une saveur de ce que les autres ont vécu, là, 2000 ans. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. C'est d'actualité, hein? Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Et ça, quand ça parle de la droite de l'Éternel, c'est un titre messianique. Ça parle de Jésus, le Christ. Verset 16, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié et ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Jésus est la porte, n'est-ce pas? Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Encore là, ça parle de Christ. C'est de l'Éternel qu'elle est venue, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la aux cornes de l'autel. Dieu, tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et je veux simplement, à la lumière des deux derniers versets qu'on a lus, tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Je veux simplement qu'on aille dans la prière comme ça, avec cette louange confiante qui se repose en l'Éternel, et qu'on puisse répondre à ce qu'il a pu dire à nos cœurs. Ah oui, Seigneur, on te loue de ce que tu es le grand Dieu souverain. Tu as dirigé absolument toutes choses de toute éternité. On a vu comment Jésus, dans sa venue sur terre, avait tout parfaitement au contrôle. Seigneur, on a une sécurité là-dedans. Parce que, on le voit, ce monde est à la dérive et il y a toutes sortes de choses qui se passent et on entend parler de toutes sortes de choses, ça peut être très déstabilisant, mais merci que toi, tu ne changes pas. Tu règnes et tu vis éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur de ce que tu es le seul vrai Dieu, le seul à craindre, le seul qui est capable de faire les choses extraordinaires qui viennent que de ta main, de délivrer, de transformer le mal en bien, d'exercer ton jugement contre ceux qui oppressent ton peuple et les gens en défaillance, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu et on te loue, Seigneur, de ta bonté. Puisses-tu bénir et diriger ce temps maintenant où est-ce que simplement, Seigneur, on veut te parler des choses dont tu nous as parlé. En réponse, Seigneur, dirige ton peuple qui va s'approcher de toi dans la prière. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous voulez...